Raison gardée sur RCN avec la libre pensée de Meurthe et Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Raison gardée avec moi aujourd'hui au micro Charles.
Bonjour.
Jean-Luc à la technique, merci Jean-Luc. Et nous recevons aujourd'hui deux invités, Astrid, bonjour Astrid.
Bonjour.
Et Emma.
Bonjour.
Et pour discuter avec nous de quelque chose qui nous importe, à la Libre Pensée toujours, notre association toujours soucieuse de la défense des droits et des libertés, et bien nous parlerons du planning familial. Et nous commençons justement pour lancer le thème en chanson pour une fois. Mathilde, à la gloire des femmes.
Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, qu'elles pères de mère ou pères de fils. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes piliers. Je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles. Je chante la peine de ces colosses aux pieds d'argile. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs, à la gloire des femmes que j'honore, et ce jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores unies jusque devant la mort.
Une très belle chanson de Mathilde, à la gloire des femmes. C'est une belle idée, merci à vous de nous avoir proposé de commencer l'émission avec cette très belle chanson pour parler donc du planning familial. Nous avions, il y a déjà longtemps, je ne sais plus quand, évoqué la recréation, je crois, ne pas dire de bêtises, c'est une recréation du planning familial à Nancy. Et maintenant, il est installé, il existe à nouveau. Alors on peut peut-être commencer, Emma et Astrid, par rappeler depuis quand existe le planning familial en France et quelles sont les missions et les raisons de la création du planning familial.
Alors le planning familial existe depuis 1956. À l'époque, il s'appelait la Maternité Heureuse. Et cette association s'est créée, était composée de femmes et d'hommes décidés à faire changer la loi de 1920 qui interdisait l'avortement et c'était pour lutter également contre la propagande anticonceptionnelle. On est dans une époque où la hantise d'une grossesse non désirée inhibe complètement la sexualité des femmes. Et la conquête de la contraception et du droit à l'avortement sont nécessaires et vont bouleverser la société tout entière par la possibilité qu'on apprécie toujours de pouvoir dissocier la sexualité et la reproduction. C'est seulement en 1960 que la maternité heureuse laisse place au planning familial, qu'on appelle exactement le mouvement français pour le planning familial. Et voilà, et aujourd'hui le planning est une association qui est reconnue d'intérêt général, qui est militante, qui est féministe, laïque et d'éducation populaire. Et les missions fondatrices sont inchangées, mais au fil du temps, nos missions se sont considérablement élargies.
C'est-à-dire bien au-delà de la question de la contraception, c'est ça que tu veux dire quand tu dis que les missions se sont élargies?
Alors, elles se sont élargies parce que ces droits ont été conquis. Néanmoins, ils restent en danger, surtout à l'heure actuelle, et c'est l'objet de la recréation de l'antenne de Meurthe-et-Moselle, enfin de Nancy. Ils se sont élargis parce que... parce que la société a évolué, donc on lutte pour conserver ses droits et pour les élargir, éventuellement supprimer à terme le délai de limitation en fait, de droit à l'IVG dans le temps. Aujourd'hui, on est à 16 semaines d'aménorrhée, donc 14 semaines de grossesse. Donc ça reste quand même assez court comme délai. Parce que le plaidoyer s'est élargi. On a un plaidoyer qui est également... C'est une association d'éducation populaire, féministe, avec une approche intersectionnelle. Donc le plaidoyer est également un plaidoyer antiraciste, antifasciste, qui lutte pour les droits des personnes de toutes les minorités de genre, donc des personnes trans, des personnes également d'orientation sexuelle pas hétérosexuelle, donc que ce soit asexuel, que ce soit homosexuel, enfin voilà, pour les droits de tout le monde, sans aucune discrimination. L'accès aux soins globalement, évidemment plus spécifiquement l'accès aux soins de santé sexuelle. Le planning, il a été militant dès le départ pour l'accès à la contraception, mais à la protection aussi sexuelle inconditionnelle, parce que avec dans les années 80, l'émergence et la propagation du VIH-Sida, la libération sexuelle aussi qui a fait peut-être plus d'échanges sexuels dans les populations de manière générale. Le planning lutte aussi pour, à cette époque-là, pour l'acquisition de ces droits. Mmh. La prise en charge aussi par la sécurité sociale de l'IVG, toutes ces choses-là à l'époque. Aujourd'hui encore, et le planning s'est aussi prononcé pour la PMA pour toutes, par exemple. Donc on n'est pas uniquement sur la contraception et l'accès à l'IVG, on est sur tous les droits reproductifs et sexuels pour toutes et tous.
Donc des combats effectivement qui se sont enrichis. Oui. Peut-être juste rappeler, tu as parlé de combats intersectionnels. Oui. Au cas où l'expression reste un peu confuse, est-ce qu'on peut rappeler ce que ça veut dire, intersectionnalité?
Alors, c'est que dans
les spectres
des discriminations, elles se superposent. Par exemple, ça peut être difficile d'avoir accès à la santé sexuelle ou à, je sais pas moi, à la contraception, par exemple, de manière basique quand vous êtes une femme. Mais quand vous êtes une femme pauvre, éventuellement qui vit pas dans un centre-ville, qui n'a pas accès à la santé, pour peu que en plus vous soyez pas blanche, vous serez pas considérée de la même manière quand vous arrivez quelque part. Mmh. Et notamment dans les consultations médicales ou dans les institutions même publiques, vous serez pas considérée de la même manière, pas écoutée de la même manière, et donc vous subirez encore plus la discrimination à l'accès à la santé.
L'intersectionnalité vient d'intersection, c'est l'intersection, le croisement, l'ajout, l'addition de plusieurs causes de discrimination.
Et donc des luttes.
D'accord, merci. C'est toujours bien, parce que parfois on se comprend, etc. Mais effectivement, il faut toujours bien clarifier les choses pour bien comprendre que c'est toujours dans le champ de ce qu'est la mission première du planning familial, mais en prenant en compte aussi tous ces autres combats qui viennent, comme tu l'as bien dit, ajouter des difficultés supplémentaires à des personnes selon leurs conditions.
De vie et d'existence.
Oui, exactement. Les centres du planning familial aujourd'hui, ils sont nombreux en France ou plus
aujourd'hui, aujourd'hui il existe donc le planning familial est organisé, c'est une confédération nationale qui appartient d'ailleurs à un mouvement international
Planned Parenthood, mais je ne me souviens jamais du nom en français.
Voilà, c'est l'IPPF, donc c'est la Fédération internationale des plannings familiaux, et donc ce qui nous permet de mener des combats féministes au niveau européen, mais aussi international.
Et donc, en France, aujourd'hui, il y a 82 antennes, bientôt 83, puisqu'il y a une antenne en création à Saint-Dié. Pas trop loin de chez nous. Mmh. Et c'est tant mieux. Après, c'est pas facile forcément de constituer une antenne. Il faut savoir également qu'il y a 82 centres. Néanmoins, ils n'ont pas tous les mêmes missions. Ils n'ont pas tous la même forme. Par exemple, à Nancy, on est une antenne uniquement bénévole. On n'est pas un centre de santé sexuelle. Il y a des antennes qui sont des centres de santé sexuelle dans lesquels il y a des centres vraiment d'IVG et avec par exemple je suis passée à Marseille récemment, il y a 30 salariés dans l'antenne, on n'est pas du tout sur les mêmes formats. Voilà, ça peut être très divers.
C'est financé comment alors à Marseille?
Alors, à Marseille, c'est financé, bonne question, c'est financé par la région, j'imagine. Voilà,
Oui, parce que là, une antenne aussi importante avec 30...
Ne serait-ce que à Strasbourg.
À Strasbourg, ils ont aussi des fonds européens.
Ils ont une bonne dizaine de salariés, ils ont des fonds européens, ils ont une subvention régionale. Le local, il est mis à disposition gratuitement par la mairie de Strasbourg, par exemple.
D'accord, donc même s'il y a une confédération nationale, en fait, chaque centre doit, de manière autonome, je dirais, trouver son organisation, ses financements, etc. Oui, donc effectivement, il y a cette difficulté-là déjà
à
surmonter.
Donc une création d'antenne, c'est pas toujours facile, voilà. Mais ça se fait.
Donc il faut comprendre que des personnes qui veulent créer un planning familial donc doivent forcément se tourner d'abord vers nationalement la confédération parce que je suppose qu'il y a des règles à suivre
s'engager à certains principes. On peut pas s'appeler non plus planning familial
Il n'y a pas d'usurpation possible de cette étiquette là. Michel.
Donc c'est pas un vrai service public, il faut que c'est une association qui est obligée de se débrouiller pour assurer...
C'est pas du tout un service public.
C'est pas un service public.
Non mais comme la santé, comme l'hôpital
quoi. Bien sûr, alors...
Mais ça pose un problème avec le financement des médecins qui interviennent dans ces plannings.
Ils sont rémunérés par les plannings familiaux, alors après c'est des postes de subvention qui sont différents. Quand vous avez un salarié médecin, ça va pas être forcément le même poste de subvention, donc ça va être encore une demande différente que pour la secrétaire. Pardon. Donc c'est du travail. Il faut des trésoriers qui soient vraiment très motivés. On a du bol parce qu'on en a. Mais...
Parce que l'ARS ou la sécurité sociale est assez ouverte à ça ou c'est difficile de monter un dossier?
Alors nous, on n'a pas encore fait des dossiers, des demandes de subvention à tous les organes qui existent. Par exemple, on n'avait pas encore demandé à la CAF, on va le faire cette année. À l'ARS, il faut avoir des missions pour demander des subventions. Donc il faut un certain nombre de bénévoles qui aient à la fois le temps, l'envie et la formation nécessaire pour faire ces missions. Mais par exemple, si je vous prends à Strasbourg, il y a des salariés qui interviennent en tant que soignants. Ils sont payés. C'est un mode de santé communautaire en fait, un mode de centre de santé communautaire. Ils sont tous payés au même tarif, le même tarif que la secrétaire.
Il y a
16 euros net de l'heure. C'est sûr que c'est moins rentable que de bosser. Dans un service public ou privé même.
Ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est pas si simple de créer une association départementale parce qu'il faut, comme pour toute association, on va dire, créer des statuts, trouver des bénévoles, désigner un conseil d'administration, etc., comme pour toute association. Mais du coup, il faut peut-être en plus avoir un ou une trésorière qui va pouvoir monter des demandes de subvention, en sachant que pour avoir une subvention de la mairie, du conseil départemental, de l'ARS, les conditions à remplir ne sont pas les mêmes, les actions à mener ne sont pas les mêmes. Il faut bien rentrer dans les cases de chaque financeur, les identifier, ce qui n'est pas simple. Et puis, peut-être le dernier niveau de difficulté, moi je dirais, c'est qu'il faut aussi avoir des bénévoles qui, non seulement bien sûr, s'intéressent aux sujets qui sont traités par le planning familial, qui militent, mais qui se forment, et qui se forment parce qu'on nous abordons des sujets qui peuvent être, enfin qui demandent, ne serait-ce qu'aujourd'hui, connaître les différents moyens de contraception qui existent, hormonaux ou pas. Même si on n'est pas médecin prescripteur, on se comprend bien, mais ne serait-ce que pour orienter, conseiller, il faut quand même connaître un certain nombre de choses, sur l'IVG pareil, etc. etc.
Et sur l'éducation populaire, c'est par exemple, la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est pareil, on ne peut pas envoyer des gens pas formés faire ce genre d'action. C'est pas je me réveille un matin, ces sujets me passionnent et j'y vais. Alors non, pas du tout. Il y a une manière de s'adresser aux personnes pour qu'elles puissent s'emparer des sujets, se les approprier, réfléchir dessus, les comprendre, pour ensuite devenir agente de leurs décisions.
Mais même pour les permanences, sur l'accueil, l'écoute qu'on mène, c'est aussi un certain type d'écoute. Il faut mettre les gens en confiance, les laisser parler... pouvoir les conseiller mais pas surtout pas décider à leur place, ne pas les juger, Donc c'est un type d'écoute aussi très particulier, hein, parce qu'on a tous sans doute au cours de nos vies, qu'elles soient professionnelles ou pas, écouté des gens parler, mais là c'est un type d'écoute très particulier, même simplement pour des questions de violence aussi, hein, faut pouvoir...
Alors nous, quand on parle de conseil, on va être dans le conseil sur l'orientation, mais par exemple, si vous prenez les contraceptions, on va informer sur tous les modes qui existent, et ensuite la personne, elle, va choisir ce qui est plus ou moins adapté à sa situation. Alors si elle porte certains éléments à nos connaissances, on va peut-être lui dire, ah bah oui, alors peut-être que ça c'est pas le meilleur moyen pour vous, si c'est vraiment pas ce que vous souhaitez, ou si vous pensez ne pas réussir à prendre la pilule quotidiennement, par exemple. Néanmoins, de toute façon, c'est pas nous qui prescrivons à la fin, mais il y a des personnes qui viennent pour être sûres de tout connaître avant d'aller en consultation, pour pas se laisser imposer de manière complètement arbitraire et paternaliste un mode de contraception. Ce qui se produit encore souvent
dans les consultations.
C'est assez banal de le dire, mais c'est bien de le rappeler quand même.
Oui, non, ça c'est vrai que le dialogue avec un professionnel de santé n'est pas toujours installé pour effectivement choisir en toute connaissance de cause, et donc ça fait partie de vos missions, vous, effectivement, de réussir à informer. Alors on entend bien le caractère très chronophage de la création du planning familial, la question financière qu'on a abordée, du montage, et puis du fait qu'un bon bénévole doit accepter d'être formé pour pouvoir répondre le mieux possible et être à l'écoute, donc notamment sur ce sujet-là. Alors, juste peut-être, j'ai oublié de poser la question tout à l'heure, c'est une création ou une recréation à Nancy, le planning, avant qu'on revienne sur vos missions?
Alors, c'est une recréation, puisque ça a été recréé donc fin 2024.
Par... À l'initiation de cette recréation, il y a des militants qui sont même plus forcément concernés de manière directe par ces sujets de contraception ou pas, puisque c'est des militants qui sont plus âgés. Il n'empêche que par ricochet, de toute façon, ils ont été concernés et que c'est des sujets qui leur tiennent à cœur. Et au moment où l'accès à l'IVG a été coupé aux États-Unis, ils se sont dit, alors là, vraiment... La montée des extrêmes droites partout, ça met tellement les femmes en danger et les populations de manière générale qu'ils se sont dit, est-ce qu'il reste en fait un planning à Nancy? Non, il n'y en a pas, on en refait un. Ils ont lancé un appel sur Manifeste. Alors moi, j'y étais pas à l'époque, mais les personnes, les premières personnes se
donc
sont présentées.
C'est assez récent. Hein,
c'est une recréation.
C'est une recréation après une quinzaine d'années d'interruption. Voilà, pour les raisons que Emma vient de citer principalement. Et puis, donc, à l'initiative de ça, c'est un groupe de, voilà, d'anciens militants.
On va citer Arlette quand même.
Et on, voilà.
On cite Arlette Alvarenga qui était à l'initiative de cet appel pour demander si des personnes voulaient participer.
Oui, donc des personnes qui avaient mené des combats et puis qui se sont rendues compte que finalement ce qu'on croit acquis ne l'est jamais totalement et qu'il faut redéfendre des causes. Et
voilà.
On a vu, et puis il y a eu l'inscription de la liberté d'avorter qui a été portée dans la
liberté garantie.
Oui. Et on sait que les choses peuvent aller très très vite et que
on l'a vu autour de nous.
Les démocraties en Europe et ailleurs sont en grande souffrance ces derniers temps.
Je voulais revenir sur quelque chose, sur les sujets qu'on vient d'aborder. Et ce qui est important aussi quand on recrée une antenne, c'est d'accepter qu'au départ on part de rien et qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas maîtriser, que néanmoins il faut s'intéresser aussi à faire un espèce de ratissage de connaissances terrain. Par exemple, on ne peut pas informer des gens sur ces sujets-là ou sur les orienter si on ne connaît pas le terrain de comment ça se passe à tel endroit quand on veut avoir accès à l'IVG, par exemple, que ce soit au centre de santé sexuelle et d'orthogénie ou en consultation avec une sage-femme libérale à la maison des solidarités. Il faut savoir où orienter par rapport aussi aux situations que les personnes vont nous amener. On ne va pas orienter aux mêmes endroits forcément les mêmes personnes.
Vous inscrivez dans un paysage dans lequel on trouve déjà un peu d'aide.
On trouve des associations, des institutions publiques ou pas, et des cabinets libéraux également, parce que parfois ça va plus vite, c'est plus simple, et certaines personnes y sont mieux accueillies que dans certains services publics où les agents n'ont pas toujours le temps d'être formés à toutes les questions, même si il existe des services dédiés à ces choses-là. Une fois qu'on s'intéresse aux personnes réellement concernées par les problématiques, je pense notamment aux personnes trans, ben, il y a beau avoir des services dédiés à ça, à la maternité, si vous parlez avec les personnes du T-trans, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des personnes en libéral qui sont beaucoup plus à l'écoute de manière plus neutre de ces personnes.
Donc vous pouvez ainsi comment dire, vous ajoutez quelque chose en fait. Il s'agit pas de prendre la place de quelque chose qui existe, il s'agit bien d'être là pour pouvoir contribuer justement à orienter les personnes, à les informer. Et donc c'est vraiment quelque chose qui manquait, quitte à leur dire que nous ne maîtrisons pas tel ou tel sujet
et les renvoyer vers d'autres organisations qui les maîtrisent mieux et qui les conseilleront beaucoup mieux que nous.
Ben, nous, ce qu'on peut sans doute apporter, j'imagine, hein, j'espère, c'est le côté militant et féministe, c'est-à-dire, ce ne sont pas des mots creux, hein, c'est-à-dire que nous, on va orienter en s'assurant préalablement que l'accueil vers le point de chute, si on peut dire, et safe.
Et sécure.
Ou sécure.
Et aussi que les personnes connaissent leurs droits avant d'y aller. Qu'on ne vienne pas leur compter fleurette et finalement ne pas les aider à accéder à leurs droits.
D'accord.
Ce qui se produit aussi.
Oui, c'est-à-dire veiller, vous l'avez dit tout à l'heure, l'association est laïque, elle vise à l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'il y a bien la volonté de donner une information objective, très ouverte, dans le respect de l'écoute, enfin dans l'écoute des personnes et dans le respect...
Oui, et on a il y a un organe au sein du planning national qui s'appelle le baromètre IVG, qui d'ailleurs est financé en partie par la MGEN. Je dis ça pour les profs qui nous écoutent. Et en fait, il relève les entraves et en gros, c'est un baromètre, donc il indique à tel ou tel endroit sur le territoire, pas seulement c'est facile ou pas d'accéder à l'IVG, mais c'est facile d'y accéder sans entrave et quels sont les types d'entraves. Par exemple, quand une personne vient chez nous nous parler, nous faire un retour sur une situation d'une échographie alors qu'elle est arrivée en consultation, j'aimerais avorter, et qu'on lui fait une écho en allumant l'écran et en faisant écouter les battements de cœur d'emblée, sans avoir demandé avant, c'est une forme d'entrave.
C'est une pression.
C'est une pression. Et ça, on le fait remonter en fait.
D'accord. Eh bien, peut-être qu'on peut faire une première pause musicale et justement écouter Mathilde, le corps des femmes.
Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on ne lui foute jamais la paix? Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté? Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous glacer, nous enfermer dans leurs idées, leurs idéaux un peu machos, nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on lui foute jamais la paix? Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Le corps des femmes porte leurs âmes, porte la vie, porte leur drame. Le corps des femmes, leur seule maison, toujours saccagée sans raison. Je veux savoir pourquoi c'est toujours les femmes que l'on broie. Et pourquoi toi, tout feu, tout flamme, tu as servi le corps des femmes? Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on ne cesse de l'emmerder, pour que toujours dans les réclames on m'y invite à le changer? Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on le voie comme un objet? Si vous voulez le fond de ma pensée, mon corps est parfait comme il est. Oui, je suis libre, oui, je suis belle, j'incarne la beauté. La féminité irascible, ils peuvent parler, ils peuvent juger, ils peuvent détester, cracher, quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils fassent, mon corps de femme est un palace. Mon corps de femme porte mon âme, porte ma vie, porte mes draps. Mon corps de femme, ma seule maison, des femmes pour qu'on lui foute jamais la paix.
RCN, raison gardée, le dernier lundi du mois à 11h.
Nous revenons à notre émission avec Emma et Astrid pour le planning familial de Nancy ou de Meurthe-et-Moselle, tiens, tout à l'heure
Pour l'instant, de Nancy, pour l'instant de Meurthe-et-Moselle, mais s'il y a des personnes très motivées à Mont-Saint-Martin ou n'importe où ailleurs, allez-y, montez un truc.
Parce que c'est notre département avec
alors,
sa tête
en tant que bénévole,
de
ça va être compliqué de tout faire.
Au niveau départemental, mais comme tout à l'heure, tu avais dit Nancy, le 54, je me suis dit, ah oui, c'est vrai.
C'est le 54.
Quel est le périmètre D'accord. Parce que Saint-Dié, c'est les Vosges. Je vous avais parlé tout à l'heure de la création à Saint-Dié. Mais on n'est plus dans le département. Alors, vous avez déjà apporté des réponses un peu concrètes à ce que vous proposez. Alors, moi, je me disais tout bêtement, où vous trouvez et à quels horaires, par exemple. Et puis, quelles sont les situations auxquelles vous pouvez répondre? On a beaucoup parlé de contraception, de l'avortement, mais il y en a d'autres aussi. Alors concrètement, le planning familial actuellement se trouve rue
de Rouen, au numéro 17, au rez-de-chaussée de l'Union Locale CGT, qui nous héberge.
D'accord, donc vous avez votre sonnette.
Gracieusement.
Alors, merci à eux.
Voilà, merci à eux.
À quels horaires?
Alors ça dépend du temps des bénévoles, on fait 2 à 3 permanences par semaine, 2 à 3 permanences de 2 heures et les horaires ne sont pas fixes. Donc on les trouve sur les réseaux sociaux et quand on a le temps de les envoyer à la mairie, sur le site de la mairie. Mais plutôt sur nos réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, c'est vrai.
D'accord.
Après il y a un numéro de téléphone aussi que je n'ai pas en tête mais on pourra le donner à la fin de l'émission. Et on répond aussi aux SMS, voilà.
D'accord. Donc on rappelle que la chose se met en place et donc il faut, on fera un appel aux bénévoles.
Il faut être indulgent.
Tout à l'heure. C'est déjà bien que le planning existe à nouveau. Alors qui peut venir et avec quel genre de questions ou de besoins?
Alors il faut avoir à l'esprit qu'on accueille tout le monde. Tout le monde, quelle que soit l'orientation sexuelle, l'identité, le genre, avec ou sans papier. On accueille vraiment tout le monde. Et puisqu'on est laïque également, donc tout le monde.
Donc pas besoin de carte d'identité française, pas besoin de carte vitale, pas besoin
de... On ne demande rien, l'accueil est anonyme et confidentiel.
Et anonyme et confidentiel, donc on ne demande rien, on accueille tout le monde.
Le seul cas où on peut demander un nom et un prénom, c'est pour les IVG hors délai. Qu'on aiguille vers la Hollande et pour lesquels on fait des certificats avec nom, prénom, date de naissance.
D'accord.
On ne demande même pas de papier d'identité. On fait confiance aux personnes.
Voilà, donc on assure, comme il a été dit, on assure la confidentialité absolue des échanges et des informations qui nous sont données. C'est un accueil donc inconditionnel, gratuit. Voilà. Donc, sur les questions, les hommes ou les femmes, puisque tu peux le demander.
Oui,
tout à
l'heure, avant d'enregistrer, je me disais, mais est-ce qu'un homme peut sonner à la porte?
Si un homme veut venir, il est le bienvenu. Après, la limite de cet accueil, c'est qu'il n'est pas question de recevoir longuement, on va dire, des gens qui prôneraient des idées, des valeurs qui sont contraires aux nôtres. Je pense aux associations anti-choix. Anti-choix IVG, je pense au prosélytisme religieux quel qu'il soit, etc., etc. Au machisme, évidemment, puisque c'est quand même un de nos combats principaux.
Si ces personnes ont besoin de nos services, bien sûr, nous les aiderons, nous les orienterons. Mais on ne va pas les accueillir en réunion et en bénévole trop longtemps. Notre temps est précieux.
Donc sur quel sujet? Donc sur l'IVG bien sûr on en a parlé, sur l'accès à la contraception, sur l'accès aux soins de manière plus générale, mais aussi les violences, puisque dans les violences, il y a les violences faites aux femmes, aux enfants, bien sûr, les incestes, enfin voilà. Donc encore une fois, nous on est sur une mission qui est d'abord d'accueil, tel qu'on en a parlé tout à l'heure, avec une écoute très attentive, dans le souci d'accompagner les gens et de les laisser prendre leurs propres décisions en éclairant peut-être leur choix, on va dire, mais c'est un choix qu'ils font elles ou eux-mêmes. Quoi d'autre?
Les mineurs aussi, peut-être une question qu'on
les peut mineurs
se
poser. Sans forcément avoir leurs parents. Enfin, on sait bien que quand on est mineur, il y a des sujets qu'on n'a pas non plus envie d'aborder en famille ou pour lesquels on n'est pas libre de parler, et bien sûr qu'on les accueille.
Donc les gens chez nous qui accueillent sont tous et toutes des militants et bénévoles. Mmh. Nous n'avons pour l'instant pas de salariés, même si c'est un projet dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc ce ne sont pas des professionnels. Alors ça ne signifie pas encore une fois qu'ils ne savent rien, hein, parce que encore une fois, pour militer au planning, il faut s'intéresser aux questions qui sont traitées, aux valeurs qui sont celles du planning. Il faut être formé, se former.
Alors, ce ne sont pas des professionnels du planning familial, néanmoins, il y a par exemple un médecin qui accueille.
Ouais. Et puis après, il y a quand même, enfin chez nous, là on est à peu près 35, les parcours de vie, de métier des uns des autres font qu'il y a des compétences qui sont présentes quand même, et qu'on peut partager. Il y a une sage-femme, il y a conseillère conjugale et familiale, par exemple, il y a des psychologues, enfin bon.
Des personnes dont la profession est celle-là et qui contribuent par leur connaissance professionnelle.
Leur rôle n'est pas cette profession.
Leur fonction au planning, mais voilà, ce sont des gens qui ont des connaissances qui ne viennent pas sans rien. Quoi, non plus.
Encore une fois, c'est une asso d'éducation populaire, ce qui est valable également pour les bénévoles. C'est-à-dire que la compétence, ce n'est pas forcément un diplôme validé académiquement tant qu'on ne commet pas de gestes. Oui, néanmoins, vous pouvez être tout à fait informé sur tous les moyens de contraception, même de manière hyper détaillée sur les effets secondaires, les contre-indications, sans avoir un diplôme de sage-femme ou de médecin. Et vu que vous ne prescrivez pas, vous êtes juste là pour informer, et ensuite les gens décident et vont aller consulter un professionnel.
Donc ni prescription, ni geste médical. Non. Et les bénévoles sont formés, c'est-à-dire comme vous êtes dans une confédération, y a-t-il des formations qui sont justement assurées par la Confédération nationale ?
Il y a des formations qui sont assurées par la Confédération nationale, et il y a des formations qui sont faites avec les compétences professionnelles des bénévoles entre eux également.
D'accord.
Par exemple, on a une sage-femme qui a fait la formation sur les contraceptions.
Voilà. D'accord. Et puis, entre associations départementales aussi. Il y a certaines associations départementales, je pense à Grenoble, à Marseille, à Angers, qui sont des associations assez conséquentes avec des salariés, qui fonctionnent depuis très longtemps, qui elles-mêmes mettent en place des formations qui sont ouvertes aux autres associations départementales.
Et qui sont aussi ouvertes aux professionnels, d'ailleurs. Vous pouvez être professionnel même de santé et aller vous former sur une manière d'accueillir et d'envisager le soin, la manière horizontale de partager les savoirs également. Et ça fait toujours du bien aussi de le rappeler. Peut-être la fac de médecine peut même aller s'informer à ce sujet-là. Donc voilà, l'éducation populaire, c'est valable pas seulement pour les ateliers qu'on fait à l'extérieur du planning, mais c'est aussi comme ça que ça fonctionne à l'intérieur du planning.
Oui, nous, c'est vrai, ce rapport au médecin, c'est un sujet qu'on aborde souvent à raison gardée chez les libres penseurs quand on parle de la question de la fin de vie, du pouvoir du médecin, en fait, du pouvoir de décision du médecin qui, parce qu'il sait, pense qu'il sait ce qu'il faut pour la personne et qui n'a peut-être pas toujours cette écoute qui est nécessaire.
Je voudrais peut-être donner un exemple pour illustrer ce qu'on a dit là, notamment au sujet de la contraception. Donc l'information, le conseil, mais pas la décision à la place des personnes concernées, il peut être utile. Donc nous, on a par exemple une mallette où il y a tous les moyens de contraception. En vrai, quoi. Donc on peut les regarder, les toucher, les retourner. Faire
avec les statistiques d'échecs et de
réussite. Avec les statistiques, voilà. C'est plutôt pas mal de le présenter aussi comme ça. Ce qu'on trouve plutôt bien, c'est de dire à la femme concernée, parce que, bon, malheureusement, la contraception, c'est quand même toujours une affaire de femme, c'est pas prêt de se terminer. Mais par exemple, juste dire à la femme qui vient se renseigner, hormones ou pas hormones, vous avez un problème de santé qui pourrait poser une contre-indication à un contraceptif hormonal ou pas. C'est déjà une manière d'éclairer le choix.
Et de faire participer la personne.
Voilà, et de dire, il y a des questions qu'il faut peut-être se poser, et peut-être que ça peut être bien de le savoir. Ça élimine tout de suite une grande partie des contraceptifs, si on ne peut pas être sous hormones. Pour une question de diabète, pour une question différente. Et puis ça peut être un choix de la femme en question, de ne pas prendre d'hormones.
Et c'était un sujet au sein de nos formations en interne, où on avait donc des personnes de tous âges durant cette formation. Hormones ou pas hormones? Alors moi j'ai 38 ans, donc je suis dans la génération qui est un peu entre la génération qui ne veut plus du tout d'hormones et celle qui était ultra ravie de la pilule et qui du coup refuse pour beaucoup de personnes de remettre ce choix en question. On avait des femmes qui n'envisageaient pas et ne comprenaient pas, et d'ailleurs refusaient aussi de comprendre que des jeunes femmes ne veuillent pas d'hormones. Alors après, il faut débunker aussi les croyances. Au niveau médical, il n'y a pas forcément toujours de problème chez tout le monde avec les hormones. Néanmoins, ça reste le choix de la personne. Et si elle a des peurs et que malgré qu'on lui sorte des études et des chiffres, elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, c'est tout. Elle n'est pas obligée.
Oui, c'est vrai qu'il y a deux écueils. Il y a le caractère un peu parfois pas complotiste, mais bon, mal informé, etc., qui peut effrayer. Et puis c'est vrai aussi la dimension générationnelle un peu des combats, c'est-à-dire que des femmes qui se sont battues, qui ont vu dans les hormones vraiment une solution extraordinaire, qui paraissait souple et simple, etc.
Oui, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre non plus proposé à cette
exactement,
époque.
Exactement, voilà. Et qui parfois ont du mal à comprendre qu'on peut dans l'offre privilégier autre chose, ou avoir un principe qui est de ne pas vouloir perturber en avalant un cachet son propre, ses propres hormones, effectivement. Vous avez parlé aussi souvent d'éducation populaire. Je vous propose une autre pause musicale et peut-être après d'interroger un peu peut-être vos interventions éventuellement à l'extérieur ou quelle est la dimension justement d'éducation populaire qui peut être celle du planning. On écoute Imani avec la voix de Rokhaya Diallo à la fin de cette chanson Rolling Over.
Je suis le feu, tu es la glace, c'est sans espoir. Y'a pas d'amour sur les trottoirs de tes angoisses. Assise au bord du piédestal, ma voix s'efface. Et la lune brille sur la nuit noire de tes remparts. Rolling under, rolling over, rolling. Mais dans ta tête, y'a pas de miroir, aucun reflet. Rolling under,
Comme la poussière, je me soulève. Danse légère de mes ornières. Je fais le rêve de toutes mes sœurs. J'ai su leur pleurs des profondeurs. Comme la poussière, je me soulève. Danse légère de mes ornières. Je fais le rêve de toutes mes sœurs. J'ai su leur pleurs des profondeurs.
Absolument brisé après avoir subi de telles abjections. Et si la victime se présentait de manière différente, elle aurait tout autant le droit à notre compassion et à notre respect.
Me.
RCN, raison gardée avec la libre pensée de Meurthe-et-Moselle.
Nous sommes avec Emma et Astrid pour parler du planning familial à Nancy. Nous avons abordé déjà beaucoup de choses sur les questions auxquelles vous pouvez répondre et sur la façon dont, en tant que bénévole, vous pouvez être à l'écoute des besoins des personnes de manière tout à fait ouverte, laïque, parce que ça fait partie des caractéristiques de l'association. Et vous avez aussi à plusieurs reprises parlé d'éducation populaire.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous mettez derrière cette idée d'éducation populaire ?
Alors, c'est de faire en sorte que le savoir devienne une arme pour les personnes et de ne pas leur apporter de manière descendante et encore une fois assez directionnelle et paternaliste, mais qu'eux puissent s'en saisir en partant d'eux-mêmes de leurs propres ressources et dans la discussion. En fait, que les choses viennent à la conscience des personnes par elles-mêmes, mais également par le partage et l'envie de partager. Au planning familial, on peut faire des interventions sur différents sujets. Ça peut être sur quoi faire, justement, si des violences sont subies, qu'est-ce que c'est une violence, ou sur les questionnements quant à la sexualité, au genre, encore une fois, contraception, voilà. Plein de thématiques différentes qui traversent notre mouvement. On ne fait pas d'intervention au milieu scolaire parce qu'il faut des agréments particuliers qu'on n'a pas encore parce qu'encore une fois, le temps bénévole n'est pas extensible. Néanmoins, là, on va salarier quelqu'un. On parlait des financements tout à l'heure. On n'est pas beaucoup financé, mais la Fondation des Femmes nous file quand même un très gros coup de pouce qui va nous permettre de salarier quelqu'un à temps partiel. Elle sera chargée de faire en sorte qu'on puisse avoir ces agréments. Ça ne devrait pas poser de problème. Donc, même si on n'intervient pas en milieu scolaire, on peut intervenir, par exemple, prochainement dans une MJC. Il y a un goûter discussion qui va être animé avec des jeunes sur le thème de la découverte de la sexualité, du genre et des questionnements. Voilà, on a des personnes qui sont quand même qualifiées pour ça, qui étaient avant salariées d'autres plannings familiaux, conseillères conjugales et familiales, formées aux EVARS. Et donc, c'est de questionner les jeunes à partir de... Par exemple, vous mettez un thème, vous parlez du consentement, leur demander ce qu'ils connaissent à ce sujet-là, les questions qui se posent. Ça peut aussi être préparé avec un questionnaire en amont qui est distribué. Et du coup, après, on sait d'où on part. Et c'est ne pas arriver en disant on écrit ça au tableau et puis de manière très descendante on fait un exposé, c'est pas comme ça. Voilà.
Les EVARS, je crois que c'est la deuxième fois qu'on utilise
éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle.
Voilà, qui fait partie des projets, notamment portés aussi par l'éducation nationale.
Donc ça fait très longtemps que c'est porté par l'éducation nationale et que finalement c'est pas fait pour plein de raisons différentes. Encore une fois, gros problème de moyens, de formation, et c'est un moment, peut-être que la volonté politique doit être mise sur former et donner des moyens. Visiblement, c'est pas trop le cas ces dernières années.
Oui, parce que d'après les textes, c'est un apprentissage obligatoire dans le cadre scolaire, à tous les niveaux. Oui. Alors, un sujet en plus qui suscite forcément des tas de fantasmes délirants.
Des fantasmes complètement délirants.
De l'extrême droite ou de la droite.
Et de la désinformation.
Extrême, et de la désinformation.
Beaucoup de désinformation et de promotion d'idées fausses. Donc, vraiment de la désinformation. Néanmoins, ça permet aussi de dépister les situations de violence et de faire prendre conscience, que les enfants se rendent compte qu'effectivement, ce qu'ils peuvent ressentir de ce qu'ils vivent dans leur vie, beaucoup, souvent c'est à la maison, hein, les agressions enfants, sont des agressions, que c'est pas que dans leur tête. Et en fait, si on choisit de ne laisser que aux parents cette instruction des enfants sur ce qui est bien et ce qui est pas bien, ça leur permet aussi de ne pas les informer. Et on m'a beaucoup fait la réflexion sur c'est pas normal que ça passe par l'école. Ben, n'empêche que, désolé, en France, c'est le seul endroit où on se retrouve tous et toutes, dès l'enfance. Et donc, c'est le seul endroit où on peut faire une information qui arrive chez tout le monde. Et ça doit être fait de manière adaptée, évidemment, au niveau de compréhension et de développement des enfants, avec un cadre particulier. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire.
Et même un enfant très jeune a besoin de pouvoir s'adresser à des adultes différents, en toute confiance, en toute sérénité, pour justement aussi que la parole se libère parfois, parce que l'enfant peut très bien sentir que c'est compliqué parfois de s'adresser.
Bien sûr, tout à fait. Ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que pour justement couper court, enfin essayer d'apporter ma pierre et tenter de couper court à tout ce mouvement complotiste facho d'extrême droite et compagnie, c'est que les VARS, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, a été sort d'une loi de 2001 quand même, que les décrets d'application ne sont parus qu'en 2025.
voilà. Et que les décrets qui sortent plus vite du jour au lendemain.
Voilà, quand même. Voilà, oui, il y en a même qui paraissent toute une palanquée qui paraît en général le 31 décembre par exemple. Et que ces décrets, donc, ils sont intéressants parce qu'ils déterminent les contenus des formations. Donc, ceux qui pourraient penser, à tort, qu'on va parler de sodomie à un enfant de 6 ans, se trompent. Le programme pour la primaire, le collège, le lycée ne sont absolument pas les mêmes. Et que donc, plutôt que de nourrir tout un tas d'idées fausses et de les répandre, nous les invitons à aller consulter le contenu de ces programmes avant de parler, quoi.
Et puis je pense que moi je suis d'une génération comme d'autres peut-être à cette table dont l'éducation sexuelle en cadre scolaire était souvent menée avec beaucoup de maladresse par un enseignant qui se retrouvait devant toute une classe avec une heure à accorder vaguement à un sujet qui était vraiment réduit à pas grand chose et qu'il faut des interventions de personnes formées qui savent effectivement partir de ce que peuvent penser les jeunes selon leur âge
et avec des groupes adaptés également.
Et effectivement, dans un format qui soit vraiment dédié à l'abord de ces sujets. Bon, il y a du pain sur la planche. Quels sont vos projets en tant que planning familial à Nancy ou ailleurs? Est-ce qu'il y a des actions que vous allez mener bientôt?
Alors, nous avons de nombreux projets. donc d'abord, on souhaiterait salarier une personne. Hein. Bon, c'est en cours, hein. Elle est en formation. Et puis... voilà, donc on a fait nos calculs pour vérifier si
c'était solvable,
si c'était possible.
Mais après, on n'aura plus de sous, donc si des gens veulent nous en donner, ou des institutions, voilà, même quand on n'a pas le temps de faire les demandes de subventions, donnez-nous des sous.
Donc voilà, on a besoin de sous. Voilà. Et puis on aurait besoin de subventions sur du long terme, parce qu'on n'a pas de vision à long terme. Quand on a, là ça fait 2 années de suite qu'on a une subvention, par exemple, de la mairie de Nancy. C'est très bien, on remercie la mairie de Nancy, mais c'est une subvention ponctuelle, on ne connaît pas le montant, on ne sait pas si elle sera reconduite, donc c'est quand même extrêmement compliqué de fonctionner dans ces conditions-là. Donc, il y a le salariat d'une personne, il y a l'agrément EVARS, on en a parlé. Nous sommes inscrits déjà pour développer le volet éducation populaire dans une intervention dans le cadre du MJC de Pompée. Emma en a parlé. Il y a le bus du cœur des femmes qui est prévu à Vendeuvre
le 18 mai.
Donc on en profite pour lancer un appel.
C'est à la salle
Yves Coppens.
Voilà. Donc c'est de 9h à 18h, le bus du cœur des femmes, c'est un bus qui va dépister tout un tas de problèmes et maladies. Je ne suis pas cardiologue ni médecin, donc je ne peux pas exactement vous dire quoi, mais chez les femmes. Donc, et c'est organisé par des médecins de manière bénévole en association, en coopération avec le CCAS de Vendeuvre. Donc toutes les femmes peuvent y aller, il n'y a pas de frais pour les consultations. Avec ou sans maladie connue, vous pouvez y aller, vous pouvez consulter, et il y aura des stands d'information sur ce qui touche à la santé des femmes et aux violences à cet endroit-là. Ensuite, à plus court terme, le 1er mai, on aura un stand à la fête de la CGT, au parc Charles III, évidemment, où on pourra faire de l'information, voilà. Recevoir des dons, désolé, hein, je parle que de thunes, mais...
Et vous pourrez trouver aussi la Libre Pensée, donc...
Également la Libre Pensée,
on y sera tous,
voilà. Mais, et des frites.
Oui, mais c'est vrai qu'on sait à quel point, par exemple, pour les problèmes cardiaques, les symptômes qu'on croit connaître sont en fait ceux des hommes et pas ceux des femmes. Donc,
Le tableau clinique de n'importe quelle maladie, il est fait sur un homme blanc en santé pas trop dégueulasse.
Hétérosexuel, voilà. Peut-être.
Donc, salariés, le 1er mai, le 18 mai, le bus à Vendeuvre. Et puis d'autres projets encore? Vous m'aviez parlé de septembre, non?
Oui, alors le 28 septembre, avec la Maison des Femmes, justement, y a donc le 28 septembre, c'est la Journée internationale pour le droit à l'avortement. La Maison des Femmes organise la diffusion d'un film à Nicolère, et on participera avec eux à un débat. Après, la Maison des Femmes, donc c'est une institution, c'est un lieu qui a été créé et financé par la mairie, mais co-dirigé par la mairie, le gouvernement, le département et le CIDFF, donc c'est le Centre d'information en droit des femmes et des familles. Donc on ne fait pas partie de la Maison des Femmes, on ne fait pas la même chose, on n'est pas dans le même endroit, mais on peut faire des actions communes. Eux, ils vont accueillir des femmes victimes de violences en danger immédiat ou moins immédiat sur rendez-vous, mais en tout cas, ils vont accueillir et héberger sur un très court terme, puis les replacer ailleurs, parce que l'association Arelia fait aussi partie de la direction. Ils vont accueillir ces femmes. Comment on fonctionne et on s'articule entre nous? Nous, si on a des personnes qui arrivent et qui sont victimes de violences, qui relèvent de la Maison des Femmes, on va les orienter vers la Maison des Femmes. Eux, s'ils ont des femmes qui ont des problématiques justement de santé sexuelle, d'avortement délai dépassé, ils peuvent réorienter vers nous.
Voilà. D'accord. Donc effectivement, c'est une autre structure qui vient compléter ce qui existe à Nancy.
Voilà. Ensuite, la Maison des Femmes n'a pas vocation à héberger. Ils nous ont proposé et on s'en saisira éventuellement de mettre des salles à notre disposition pour des formations ou des temps de conférences, des rencontres. Et ça va être chouette de travailler ensemble. Néanmoins, nous, on souhaite rester dans un local, en tout cas indépendant des institutions, dans le sens où si vous êtes affilié aux institutions publiques, vous allez vous couper d'une partie du public, notamment les personnes qui n'ont pas de papier, les personnes les plus précarisées, les plus marginalisées. Elles ne vont pas venir vers vous si vous êtes dans l'hôtel du département, si vous voulez. C'est logique.
Effectivement.
Surtout que, bon, en ce moment, ça va, mais dans 5 ans.
Oui, voilà.
On ne sait pas qui sera au pouvoir ou dans un an. J'ai mal partout quand vous me dites ça, mais...
Alors, on peut redonner, alors tout à l'heure on ne l'avait pas, maintenant on a le numéro de téléphone pour vous contacter. Il y a donc des permanences flottantes, on va dire, qu'il faut se renseigner sur les réseaux sociaux.
Oui, publier tous les mois
Et sinon c'est le 06 62 21 79 37, 06 62 21 79 37. Et il existe aussi une ligne nationale, un numéro vert 0800 08 11 11. Voilà. Un conseil lecture pour terminer en quelques secondes.
Alors, aux éditions Agone, Raphaël Perrin, Le droit d'avorter. C'est un sociologue dont le terrain d'étude était 300 IVG différents en France, et ça montre tous les biais qui existent dans la prise en charge de l'IVG. Et ça discute sur l'arbitraire, par exemple, des 16 semaines pour l'avortement, pour le délai. Le livre est vraiment super, je le conseille à tout le monde.
D'accord, merci.
Notamment
beaucoup.
Aux soignants.
Merci beaucoup Emma, merci beaucoup Astrid, merci d'être venue nous parler du planning familial, et à très bientôt dans Raison Gardée.
À bientôt, merci.
y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis il y a moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça le problème, justice est ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume t'accuse. Pour celle qu'avait prévenu et que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume.